Bonjour Denise, bonjour Louise, bonjour Michel. Alors on va prier et on va débuter notre enseignement de ce matin. Seigneur, nous voici réunis dans ta présence avec ce désir encore renouvelé de recevoir de ta part, d'être enseigné, d'être formé et transformé par ta parole. Alors nous prions, Seigneur, que tu aies toute la latitude nécessaire pour opérer en nous les transformations que tu désires opérer. Nous recevons ta parole comme sachant qu'elle a été préparée de toute éternité pour cette journée précise, alors que nous nous disposons à recevoir ce que tu as pour nous. Nous la recevons, Seigneur, comme étant vérité, comme étant nécessaire à notre quotidien et à notre réponse face à tes plans, tes projets et ta volonté pour nous. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère. J'appelle un éclaircissement de leurs pensées. J'appelle, Seigneur, une transformation de leur intelligence à travers, Seigneur, l'onction de ton esprit. Non seulement sur eux, mais sur moi-même aussi. Que ta parole, Seigneur, trouve un terreau qui t'est fertile, dans laquelle cette semence que tu veux implanter aujourd'hui puisse s'enraciner, croître et porter du fruit qui te sera agréable de ce côté-ci de l'éternité, mais qui t'honorera aussi, Seigneur, jusque de l'autre côté, Seigneur, de notre vie, dans l'éternité avec toi. Donc, que ta bénédiction repose sur nous. Que ta présence nous environne et nous habite, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Juste un petit réglage à faire sur mon ordinateur. Voilà. Alors, on va lire le passage qui. Et on arrive à terme avec ce passage. On est rendu aujourd'hui à la 45e journée sur 50, dans ce passage dans Ésaïe au chapitre 61. Je relis pour vous le passage au complet, donc le verset 1 et le début du verset 2. Et durant cette semaine, bien sûr, on est en train d'étudier cette dernière phrase de notre lecture. Donc je lis pour vous Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors hier, on a réétudié le terme être envoyé, le terme shalak, avec les déclinaisons dans nos langues occidentale et contemporaine, qui est, je vais juste retirer un petit rigolo. Voilà. Voilà. Donc, on a étudié donc les déclinaisons de envoyer avec mandaté, envoyer, étirer, conduire, libérer, séparer. Et aujourd'hui, on étudie le terme publier. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce. Et publier, même si ce terme est nouveau au niveau de nos textes en langue occidentale, donc en français, en anglais ou en espagnol, selon le terme que la langue que vous utilisez pour lire votre Bible, lorsqu'on retourne à la définition hébraïque du terme, ça reste un terme qu'on a beaucoup étudié à travers les deux ou trois, voire même quatre dernières semaines, le terme kara. Et vous savez déjà que ce terme-là m'est très important, le terme kara qui veut dire invoquer. Donc kara, Q-A-R-A, et qui revient 735 fois dans l'Ancien Testament. Donc il m'a envoyé pour kara, pour publier, ou invoquer, ou pour proclamer. C'est la version qu'on a eue dans les deux ou trois dernières semaines. On avait, au lieu de publier, c'était proclamer, mais c'est le même terme en hébreu. Alors, je vous donne déjà les déclinaisons qu'on va revoir ce matin adapté bien sûr avec le message de la grâce qu'on étudie cette semaine. Donc, publié Kara, Q-A-R-A, 735 fois. Et les déclinaisons qu'on va voir, elles sont au nombre de 6, si je ne m'abuse. Appelé, crié, nommé, prêché, invoqué, et ici une expression, cri de la bête ou cri d'une bête. Donc je répète les déclinaisons pour ceux qui prennent des notes encore ce matin. Appelé, crié, nommé, prêché, invoqué et cri d'une bête. Alors, il m'a envoyé pour publier, il m'a envoyé pour appeler. Lorsqu'on parle d'appeler, on parle donc qu'on lance un appel à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un silence qui est là et on brise ce silence en interpellant quelqu'un. Ça veut donc dire que Dieu nous envoie, Dieu nous mandate pour interpeller le pécheur, et dans ce cas-ci, c'est non seulement un pécheur, donc la grâce peut être une notion ou peut être reliée à l'emprisonnement de quelqu'un, mais on parle aussi de la grâce quant à l'affranchissement de quelqu'un qui serait esclave. Donc, on nous parle d'interpeller le pécheur. Ça veut donc dire que c'est la responsabilité du croyant, c'est la responsabilité de l'enfant de Dieu d'être le porte-voix de Dieu. On l'a vu à travers les dernières semaines, le dimanche particulièrement, lorsqu'on étudiait le terme apostello, où on disait que nous sommes des héros, dans le sens qui proclament un oracle qui vient de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'il est inacceptable dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, que ses enfants restent silencieux par rapport au message du salut et au message de la grâce en Jésus-Christ. Il est de ta responsabilité tout à fait naturelle, tout à fait normale de croyant d'être aussi un porte-voix. Il y a trop de croyants qui se limitent tout simplement à croire. Ça veut dire, oui, j'ai cru en Jésus. Mais la croyance en Jésus, la croyance dans le message de la foi chrétienne impose chez nous ce qu'on appelle dans un terme très technique, voire très théologique, ça interpelle le Daphné, c'est quoi le terme? Le prolésitime, non. Être des prosélytes. Le prosélytisme. Voilà. Merci Daphné. Je mélangeais les syllabes. On est appelé à être un prosélyte, donc quelqu'un qui proclame l'Évangile. Je suis convaincu que vous aviez déjà le mot à la maison pour plusieurs et que vous étiez en train de le crier, mais je ne vous entendais pas. Donc, on est appelé, de par notre foi chrétienne, à être des prosélytes. Ça veut donc dire des proclamateurs du message de l'Évangile. Et voilà pourquoi la notion d'avoir cette foi qui doit rester dans le monde du privé, cette foi qui doit rester lorsqu'on rentre dans les théories de la laïcité, lorsqu'on rentre dans ces lois qui veulent une laïcité vraiment répandue à toute la société. Le problème qui va avec cela, c'est qu'on voudrait interdire à l'Église des choses qui sont tout à fait associé même avec notre croyance. La foi chrétienne ne peut pas se taire. La foi chrétienne est appelée dans les bases même, dans le ministère et dans le message que Jésus nous a donné. Rappelons-nous, restez à Jérusalem, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc les témoins, ce sont ces héros qui proclament. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le prosélytisme fait partie intégrale de notre foi. Le fait de témoigner, si vous voulez, un terme plus usuel, un terme qu'on utilise davantage dans nos églises évangéliques et églises protestantes, le fait de témoigner, le fait de partager sa foi, c'est une base même, c'est un critère tout à fait de base de la foi chrétienne. Si tu dis que tu es croyant, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu es sauvé et que tu t'achemines vers la vie éternelle, donc tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas rester silencieux, tu dois parler. Donc le premier terme qu'on étudie ce matin, donc publier, kara, appeler. Donc nous sommes appelés à interpeller, nous sommes appelés à capter l'attention du pécheur et de l'esclave avec notre message du pardon, de la grâce et du salut en Jésus. La deuxième déclinaison, c'est le terme crier. Appeler, publier, va aussi se décliner dans certaines traductions par le terme crier. Ici, crier, c'est qu'on veut que le message soit entendu. C'est donc important de comprendre une chose. La priorité numéro un de notre vie, c'est que le message soit proclamé et entendu. Proclamé et entendu. Il est important de savoir que ce qui est la priorité de notre vie n'est pas le messager, donc ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est le message en soi. Et on a déjà vu cette notion-là avec le verset où Paul va dire à Timothée d'insister en toute occasion, favorable ou non. Ce n'est pas à nous de juger si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas nous à juger est-ce que cette personne est prête à entendre ou cette personne n'est pas prête à entendre. Est-ce qu'on doit attendre un moment un peu plus favorable? Paul va régler la chose une fois pour toutes. Insiste en toute occasion. En toute occasion, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre occasion qui existe où tu pourrais te taire. Il dit toutes les occasions qui se présentent devant toi. Insiste que ces occasions soient favorables ou non, que ces situations, ce contexte dans lequel tu te trouves, te semblent appropriés à présenter Jésus ou qu'il te semble inapproprié, insiste, ton message est d'être un porte-voix. Le héros obéissait tout simplement à l'ordre de son maître, de son roi, qui lui disait « va sur la place publique et fais la proclamation de cet édit ». Que les gens t'entendent ou que les gens ne t'entendent pas, que les gens prêtent attention ou que les gens ne prêtent pas attention, que les gens reçoivent ton message ou non, il est important que tu y ailles et que tu proclames ce que je t'ordonne de proclamer. C'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Le Seigneur va lui dire qu'il a été établi depuis avant même sa conception, avant qu'il n'existe dans le ventre de sa mère. Il est déjà établi comme prophète des nations. Mais Dieu va lui dire, regarde, prêche, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont rien faire suite à cet oracle ou aux prophéties que tu vas émettre, mais il est important que tu les émettes malgré tout. Donc, Jérémie devait être le héros de son temps, le héros, donc le proclamateur du message, que ce message soit reçu ou non, que ce message on lui prête attention ou non. Il devait crier pour qu'il soit entendu. Donc nous aussi, la priorité, c'est que notre message soit proclamé et entendu. De surcroît à cela, on va dire que publier kara va aussi se décliner avec le terme nommer. Nommer, ça veut donc dire être capable de partager le message, mais aussi de personnaliser ce message. C'est une notion qu'on a eu à développer la semaine dernière lorsqu'on disait il y a trop de chrétiens qui témoignent comme si c'était une bande enregistrée. On appuie sur play et puis là, le discours sort et c'est tout le temps monotone avec le même ton constamment, les mêmes exemples qu'on utilise à tire-larigot et on ne cherche jamais l'inspiration du Saint-Esprit afin que le message que nous transportons et que nous partageons soit adapté à l'interlocuteur que nous avons devant nous. Non seulement notre prière, et on l'a mentionné régulièrement, doit être « Seigneur, conduis-nous vers ceux vers qui tu veux nous mener » et non plus de prier « Seigneur, amène les gens à nous », mais « Seigneur, conduis-nous vers eux ». Mais de surcroît à cela, quand on va être conduit vers eux, « Seigneur, fais en sorte que les paroles que je vais dire » fais en sorte que les paroles que je vais prononcer soit celle que mon auditoire a besoin d'entendre. Lorsqu'on prêche ou lorsqu'on prend cette formation qui nous est souvent donnée lorsqu'on étudie à l'école biblique ou à l'institut biblique, on apprend l'art d'interpréter la parole, mais aussi l'art d'exposer la parole. Et dans l'exposition de la parole, il y a non seulement une certaine structure de raisonnement qui nous est donnée, mais aussi d'avoir cette quête de faire en sorte que notre discours, notre message soit adapté spécifiquement aux gens que nous rencontrons. Lorsque je m'adresse à un public qui est, on va dire, juvénile, lorsque c'est des enfants, mon discours ne peut pas être comme celui que j'adresserais à un public adulte. Lorsque je m'adresse à des jeunes gens, je dois adapter mon discours aux jeunes gens. C'est pas une question de paraître plus cool, c'est pas une question de paraître plus jeune que je ne le suis, mais c'est tout simplement d'utiliser des exemples qui se rattachent à leur vie, de l'amener d'une façon qu'ils peuvent effectivement s'approprier et saisir. Au même titre, parfois, lorsqu'on est amené à porter la parole auprès de certains groupes spécifiques, il m'est arrivé parfois de m'adresser dans ce qu'on appelle des pastorales, donc des réunions de formation auprès d'ouvriers, auprès de pasteurs. Mais c'est clair que lorsque je vais m'adresser à des pasteurs, je ne m'adresse pas nécessairement à un groupe qui est inconscient de la parole de Dieu ou qui est ignorant de la parole de Dieu. Donc, je dois m'adresser à eux avec d'autres spécificités. C'est ce que Paul va dire, et on l'a étudié aussi, lorsqu'il va dire à Timothée, lorsque tu t'adresses à un homme adulte, parle-lui comme à un père, à une femme adulte, parle-lui comme à une mère, à des jeunes gens, parle-leur comme à des frères, et à des jeunes filles, parle-leur comme des sœurs. Donc, il disait de s'adapter, ce que Paul va faire aussi lorsqu'il dit qu'il s'est fait grec avec les grecs, juif avec les juifs, qu'il a fait comme s'il était sous la loi pour ceux qui sont sous la loi, comme s'il était sans loi pour ceux qui sont sans loi, il s'est fait tout à tous, afin d'en gagner au moins quelques-uns. Lorsqu'on parle donc de nommer, on parle donc de s'adapter à notre auditoire, d'avoir cette sensibilité et de ne pas appuyer sur play et de partir notre cassette, notre enregistrement. C'est déjà pénible d'entendre un politicien et on leur accorde très souvent cette image-là de joueur de cassette qui ont un discours enregistré et qui n'en démordent pas. Donc, que ça soit pas la même chose pour nous en tant que chrétiens lorsque nous présentons l'Évangile, que ce ne soit pas une cassette qu'on fait tout simplement jouer. On entend un ton particulier lorsque c'est récité et lorsque c'est appris par cœur. Si l'Évangile a cet impact sur ta vie, tu devrais être capable d'en parler avec une façon renouvelée, avec une façon vivante et vibrante et vivifiée jour après jour et une façon adaptée à ton auditoire jour après jour. Donc, nommer, puis prêcher. Donc, appeler, crier, nommer, prêcher. Et là, c'est encore une fois un rappel de nous ramener à la base même de l'Évangile, de nous ramener au message de grâce. Il y a des gens qui parlent de la condamnation, il y a des gens qui parlent effectivement de l'enfer, dans lequel le pécheur, malheureusement, va se retrouver s'il ne se repent pas, enfer dans lequel tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur et qui ne donnent pas leur vie à Christ pour qu'il en opère une seigneurie ou pour qu'il opère seigneurie sur cette vie, si ce n'est pas ce qu'on fait, effectivement, on se destine à l'enfer. À la base, l'enfer n'était pas pour l'homme, l'enfer était pour le diable et les anges déchus. Mais les hommes qui vont refuser la grâce de Dieu, les hommes qui vont refuser le pardon de Dieu, vont se retrouver aussi dans ce même endroit. Alors voilà pourquoi il est important non pas simplement de parler de la condamnation qui accompagne le pécheur, mais d'être capable de ramener aussi le message sur la grâce, l'amour et la passion de Jésus à l'égard du pécheur. Parce que Jésus a tant aimé le monde, qui était pécheur, tant aimé toi et moi qui étions pécheurs, tant aimé ton voisin, ta voisine, ton père, ta mère, ton cousin, ton collègue, ton ami qui n'a pas encore connu le Seigneur et qui est encore dans cet état de pécheur. Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est un verset, probablement le verset le plus célèbre de la foi chrétienne parmi les églises protestantes. C'est probablement le verset qu'on a tous appris dans notre cheminement de foi. Il se trouve dans Jean 3,16 pour ceux qui prennent des notes. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce n'est pas suffisant de parler de la condamnation qui accompagne le pécheur. Il nous faut être en mesure d'amener le message de salut, de rédemption, de grâce, d'amour qui émane de notre Dieu. Et voilà ce que veut dire prêcher. C'est prêcher l'évangile, c'est ramener à la base de la foi chrétienne. Nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés, mais il y a un sauveur qui a été donné à l'humanité, qui s'est manifesté à travers la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cinquième point, avant-dernier point, le terme invoqué. Le terme kara, sa déclinaison la plus courante dans l'Ancien Testament, c'est le terme invoqué. Et très souvent, on parle d'invoquer tout simplement comme si c'était une prière. Invoquer va beaucoup plus loin que tout simplement adresser une prière à Dieu. Invoquer est littéralement un terme légal dans lequel on appelle la protection d'une personne qui est plus forte que nous, la protection d'une personne qui est en autorité sur nous, la protection parfois d'un article de loi, puisque c'est un terme juridique. Je vous ai déjà expliqué que invoquer allait un peu avec ce cinquième amendement dans la Constitution américaine qu'on voit régulièrement dans des films où les gens doivent témoigner en cour et ils disent « j'invoque le cinquième amendement » et ce cinquième amendement dit « je ne peux pas témoigner et me rendre coupable avec mon témoignage ». Alors ce que je m'apprête à dire devant le juge, je ne veux pas que ce soit retenu contre moi. Ça, c'est un article dans la Constitution américaine. On invoque cet article-là. Par la suite, on peut témoigner en toute quiétude en disant « peu importe ce que je vais dire maintenant, on ne pourra pas retenir ces choses que je vais affirmer, ces déclarations que je vais faire comme étant une culpabilité sur ma tête. » Et c'est la même chose avec Jésus. On invoque cette loi de Dieu, on invoque cette grâce de Dieu sur notre vie. Mais une des choses qu'on oublie régulièrement, c'est que cette invocation de la loi de Dieu ou cette invocation du cinquième amendement n'est valide que si je continue à vivre en respect de cette loi même que j'ai invoquée. Mais s'il advenait que je vienne offenser ces lois ou que je vienne compromettre ces lois, que je vienne à désobéir à ces lois, alors là, cet article ne s'applique plus sur moi et je peux être totalement condamné et de façon tout à fait légitime. Donc, lorsque j'invoque Jésus, je dois comprendre que je suis amené à proclamer et à déclarer la grâce de Dieu sur ma vie. Et nous, en tant que héros et en tant que porte-voix, en tant que croyants qui non seulement annonçons effectivement que le pécheur est condamnable et condamné, que le pécheur peut toutefois souscrire à la grâce de Dieu, nous devons aussi donner l'occasion au pécheur de se repentir et d'invoquer la grâce sur sa vie. Voilà ce que je fais régulièrement lorsque je vous dis « on va prier et si vous voulez vraiment le faire avec moi, voici une courte prière que j'aimerais que vous répétiez. » Et cette prière est tout simplement une prière où on reconnaît notre état de pécheur, où on demande pardon à Dieu et où on invoque le sang de Jésus, la protection de Jésus sur notre vie, où on invoque la mort, la résurrection de Jésus comme étant ce chapeau, ce parapluie qui vient nous protéger de toute condamnation. Et c'est parfois une phase qu'on oublie, on laisse les gens aller à la maison et prier par eux-mêmes et en espérant que dans leur moment de dévotion personnelle, dans leur moment de prière personnelle, ils vont être capables, ils vont se rappeler d'invoquer le nom de Jésus sur leur vie et d'invoquer la mort et la résurrection de Jésus sur leur vie. Je ne prends plus ces occasions-là ou ces chances-là. Je demande aux gens, voulez-vous prier avec moi? Ça va être court, mais on va faire la chose. Donc, c'est une chose, une phase aussi importante qu'il nous faut apprendre et qu'il nous faut exécuter dans le partage de l'Évangile. Donc, je proclame effectivement que le pécheur est condamnable et condamné. Je proclame qu'il y a un sauveur et qu'une grâce est tout à fait possible et accessible. Et de surcroît à cela, j'invite la personne devant moi à profiter et à faire sienne cette grâce en demandant à Jésus de devenir son maître et son Seigneur. Dernier terme, l'expression « cri d'une bête ». Vous savez que le terme « kara » régulièrement, je vous l'ai expliqué aussi, dans certaines traductions, va être traduite de façon littérale, de cette façon imagée que la langue hébraïque a si régulièrement. Et « kara » parle du cri d'une bête. Donc, ce cri qu'elle émet lorsqu'elle est terrorisée, lorsqu'elle est apeurée, terrifiée, voire lorsqu'elle est blessée. C'est ce genre de cri qui émane du plus profond de notre être et qu'on ne peut pas réprimer. Ce n'est pas simplement faire du bruit, mais c'est un cri que personne, un peu comme quand tu te tapes sur le doigt avec un marteau et la réaction naturelle, c'est de te mettre à crier, c'est « ouch ». Donc, quand tu as une douleur que tu ne peux pas réprimer et que ça suscite chez toi un cri, c'est cette notion-là, cette idée-là qu'on a. Lorsqu'on va prêcher l'Évangile, ça devrait être cette même réaction que nous avons, ça devrait être cette même démarche que nous avons. Ne pas être capable de réprimer le message de l'Évangile, ne pas être capable de taire le message de l'Évangile, ça devrait sortir du plus profond de notre être. La Bible nous dit que la bouche s'exprime de l'abondance du cœur. Si le message de l'Évangile, si la grâce de Dieu, si la pertinence de ce message nous habite, nous remplit, nous guide jour après jour, ce message, on ne sera pas capable de le taire. Et ce matin, voilà pourquoi je parle encore avec des émotions, voilà pourquoi je parle encore avec une certaine excitation, parce que je sais que ce message est le plus important qui puisse être partagé à un homme. Chacun d'entre nous, on est à un battement de cœur de l'éternité. Chacun d'entre nous, on est à une dernière respiration de l'éternité. Cette dernière respiration peut arriver maintenant, comme cette dernière respiration pourrait arriver dans 6 mois, voire dans 50 ans ou dans 60 ans. Mais aucun d'entre nous ne sait l'heure, le moment exact dans lequel on va passer dans l'éternité. Et voilà pourquoi on ne peut pas se permettre de se taire. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas se permettre de garder l'Évangile pour lui. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'abandonner le prosélytisme. On doit être capable, on doit être poussé, on doit avoir comme habitude de vie, comme hygiène de vie, de partager l'Évangile. Alors, je ne sais pas qui tu es ce matin. Je ne sais pas qui m'écoute ce matin. Je ne sais pas si tu as pris une décision pour Jésus. Je ne sais pas si tu t'es fourvoyé dans cette décision-là et tu as abandonné cette décision et aujourd'hui tu te trouves dans un endroit où tu te sais éloigné de Jésus. Alors ce matin, je veux faire exactement ce que j'ai enseigné et je veux te donner l'occasion de prendre une décision pour Jésus. Si tu ne l'as jamais reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu ne lui as jamais confié, remis totalement ta vie, ou si tu lui as remis, mais à un moment donné, tu l'as récupéré et tu es allé vagabonder par toi-même selon tes propres décisions en sachant que tu es maintenant redevenu le maître de ta vie. Mais tu veux revenir aux pieds du Seigneur. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Ce n'est pas des mots magiques, ce n'est pas une formule magique, c'est tout simplement te donner quelques pistes dans la prière pour remettre ta relation avec Dieu au compteur zéro, pour revenir dans la grâce de Dieu, pour revenir sous la protection de Dieu. Alors, je t'invite à prier avec moi. Répète simplement ces quelques mots avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que je suis pécheur ou pécheresse. Ma vie se destine à une condamnation éternelle à cause de mon péché. J'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Pardonne toutes les fois où je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je veux prendre la décision de te remettre toute ma vie, pour que tu en sois le seul et l'unique maître. Je ne veux plus contrôler ma vie par mes propres décisions. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Je veux que ma vie t'appartienne. Et que si tu désires m'utiliser, si tu désires te servir de moi, que tu puisses faire de moi ce que tu voudras. Je reçois ton pardon. Je reçois ta grâce. Je comprends que cette grâce a coûté la vie de Jésus. Cette grâce s'est manifestée à travers sa vie, à travers sa mort et à travers sa résurrection. Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je t'ai prié dans ton précieux nom. Amen. Alors voilà ce qui met un terme à notre rencontre de ce matin. J'espère que vous avez été bénis. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Vous devez interpeller le pécheur. Vous devez proclamer le message, le crier, quelles que soient les conditions favorables ou non. Vous devez prier que Dieu vous permette de personnaliser ce message pour qu'il soit adapté à toutes ces personnes qu'il va vous amener à croiser. Vous devez ramener le message sur l'évangile de grâce et pas simplement sur la condamnation du pécheur. Vous devez inviter le pécheur à faire une même prière avec vous, une même prière devant le Seigneur pour invoquer le sang de Jésus et le salut de Jésus sur sa vie. Et vous devez faire ce travail avec la passion et avec l'urgence qui est propre à la grandeur et à l'immensité de ce message et à l'importance même de ce message. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. On se retrouve demain matin après la tempête. Demain matin, 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse et puis bonne journée à tous. Au revoir.